Vous écoutez, on lit pour vous.
La démence, ce n'est pas la fin de leur vie. Un texte d'Alice Girard-Possé paru le 30 mars 2025 dans la presse. Mercredi midi, un groupe de résidents se réunit devant la fermette rouge à l'arrière du terrain pour participer à l'activité surnommée « coup de main à l'étable ». C'est tellement une belle journée, lance l'une d'entre elles. La veille, le temps était pluvieux, comme c'est souvent le cas en hiver en Colombie-Britannique. C'est l'heure de nourrir les 5 poules et 2 chèvres, sous la supervision d'une responsable. La visite de l'étable est l'une des dizaines d'activités offertes aux résidents, ou villageois, comme on les surnomme ici, avec l'artisanat, la pâtisserie, le chant, le jardinage ou encore le yoga. Le village Langley, créé en 2018, compte aujourd'hui 72 résidents âgés de 55 à 101 ans. Il s'étend sur un terrain de 5 acres sur l'ancien site d'une école. Insatisfait des résidences pour aînés traditionnelles, son fondateur, Elroy Jesperson, voulait faire les choses différemment. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a hâte de pouvoir emménager dans une maison de retraite. Certaines personnes disent même qu'elles préféraient mourir plutôt que d'entrer là-dedans. En tant qu'entreprise, en tant que société, en tant qu'industrie, nous devrions avoir honte. Les gens ont une vie à vivre. La démence, ce n'est pas la fin de leur vie, dit-il. Le village Langley est le premier village destiné aux personnes atteintes de démence au Canada. Un deuxième vient d'ouvrir dans l'île de Vancouver, cette fois financé par le gouvernement. La plupart des maisons de soins au Canada et ailleurs ressemblent à des hôpitaux, note le professeur au département de gérontologie à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, Habib Chaudhry. Mais depuis une vingtaine d'années, un mouvement tente de s'éloigner de ce modèle médical, indique-t-il. Elroy Jesperson s'est inspiré du village Hoogwijk aux Pays-Bas. Situé à quelques kilomètres d'Amsterdam, il accueille depuis 2009 des résidents atteints de démence. La démence peut prendre différentes formes, comme la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire ou encore la maladie à corps de Lewy. Les symptômes incluent généralement un déclin cognitif ainsi que des changements physiques, d'humeur et de comportement qui s'aggravent avec le temps. Un endroit idéal. Lorsque la mère de Martha Nagy a commencé à perdre la mémoire, celle-ci a refusé de la placer dans un établissement traditionnel. « Je voulais quelque chose qui ressemble à une vraie maison. » Sa mère a emménagé au village Langley en novembre dernier. Le village compte un salon de coiffure, une épicerie, une ferme, un jardin et un café-bistrot. Chaque matin, le journal est livré dans la boîte aux lettres pour reproduire la vie réelle. Bref, un endroit idéal, dit Martha Nagy. Au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'il y a une vingtaine de petites maisons sur le site. Mais en réalité, elles sont regroupées en 6 grandes maisons, chacune accueillant 12 de résidents selon le niveau de soins dont ils ont besoin. Chacun a sa propre chambre avec salle de bain privée. Des espaces communs, comme la salle à manger, le salon et une salle de divertissement, sont à la disposition de tous. La famille des résidents peut leur rendre visite à tout moment. Celles vivant plus loin peuvent séjourner dans une suite aménagée dans le bâtiment principal. Nous avons des gens qui viennent de partout, de l'extérieur de la province et même des États-Unis, dit Sherry Brown, directrice régionale des ventes et du marketing chez Verve Senior Living, responsable du village Langley. Du café et de la bière. Après l'activité de la ferme, les résidents se dirigent à l'autre bout du site, direction Elroy's Café Bistrot, où on leur offre du café et une collation, et même de la bière s'ils le demandent. Certains en profitent pour terminer un jeu de mots croisés, d'autres échangent entre eux. Beaucoup de résidents se sont fait de très bons amis. Il y a même un couple qui s'est déjà formé, dit Sherry Brown. Quelques mètres plus loin, la coiffeuse Elizabeth Burren finit la coupe d'une résidente. Elle vient au village 2 jours par semaine avec une liste de clients bien remplie. Quand je leur donne le miroir, c'est comme s'ils se voyaient pour la première fois. C'est incroyable, dit-elle. Sa chienne Sophie l'accompagne. Les animaux sont les bienvenus ici. Les résidents capables de prendre soin de leurs animaux peuvent même les amener chez eux. Vieillir dans le confort. Le but du village était de reproduire un chez-soi, un endroit où les résidents peuvent vivre à leur rythme et faire ce qui leur plaît. Nous ne les guérissons jamais de la maladie d'Alzheimer, mais nous voulons nous assurer qu'ils vieillissent dans le confort, dit Elroy Jesperson, fondateur du village. La liberté de choisir est au cœur des valeurs du village. Les résidents se lèvent quand ils le souhaitent et déjeunent à leur rythme. Ils peuvent sortir marcher quand bon leur semble. Certains aiment aller se promener à 6 heures le matin, ajoute le fondateur. Il n'y a aucun risque qu'ils se perdent, puisque le village est clôturé et du personnel est présent sur place en permanence. On voulait éliminer autant que possible tous les obstacles pour que les villageois soient libres de se promener, dit Elroy Jesperson. Les maisons n'ont qu'un seul étage et de nombreux sentiers permettent de se déplacer à pied d'un bout à l'autre du site. Le principal obstacle à l'accès au village est le coût. Comme ils ne bénéficient d'aucune subvention gouvernementale, les prix pour l'hébergement varient entre 10 000 et 15 000 $ par mois selon le niveau de soins offerts. C'est beaucoup d'argent. Il est évident que peu de gens peuvent se le permettre, dit le professeur Habib Chaudhry. Malgré le coût, plus de 150 personnes attendent actuellement une place au village, soit un délai d'environ 2 ans. C'était « La démence, ce n'est pas la fin de leur vie », un texte d'Alice Girard-Bossé paru le 30 mars 2025 dans La Presse.
Une soirée d'humour organisée par Juste pour rire amasse 179 150 $ pour les jeunes en situation de polyhandicap, un texte paru le 26 mars 2025 sur Info de Québec. Hier soir, au Diamant à Québec, se tenait Juste pour aider, une soirée d'humour bien spéciale visant à amasser des fonds pour soutenir les jeunes en situation de polyhandicap et leurs familles. Le spectacle bénéfice, événement de Juste pour rire, a réussi à récolter le montant de 179 150 $ et tous les fonds collectés seront redistribués à 2 organismes, le Fonds Antoine et Laura les Merveilles. Sous la présidence d'honneur de Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec et députée de Louis Hébert, la soirée Juste pour aider fut menée avec talent par le maître de cérémonie Claude Legault, qui tient un rôle principal de la série « À propos d'Antoine », et les invités ont eu droit à une réjouissante performance de l'humoriste bien connu Laurent Paquin. Il fut précédé en ouverture par Kathleen Rouleau, comédienne et auteure de la série « À propos d'Antoine », belle-maman d'Antoine parent Bédard, enfant polyhandicapé et fils de Sylvain parent Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire, organisateur de l'événement. Citation. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont contribué à cette magnifique soirée. Ces fonds auront un impact concret sur la qualité de vie des jeunes et de leurs familles. Fin de citation, a déclaré Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire. Citation. Offrir un cadre chaleureux, sécuritaire et stimulant aux jeunes en situation de polyhandicap, c'est leur permettre de s'épanouir et de vivre des expériences enrichissantes à chaque étape de la vie. Fin de citation, a souligné Sandra Lambert, présidente fondatrice de Laura les Merveilles. De plus, dans le cadre de la campagne Juste pour aider, les médias étaient conviés lundi à une rencontre exclusive à la Maison Famille Suzanne Leclerc, MFSL, l'un des 6 000 lieux de vie de Laura les Merveilles. Une occasion unique de découvrir l'organisme de l'intérieur, en présence de Sylvain Parent-Bédard et de Sandra Lambert, présidente fondatrice de Laura les Merveilles. Un peu plus sur le Fonds Antoine. Le Fonds Antoine a pour but d'œuvrer auprès de jeunes vivant avec une situation de polyhandicap. Il souhaite les soutenir, eux et leurs proches, ainsi que les organisations leur venant en aide, afin de les aider à sortir, se divertir, s'amuser, bouger. Nous croyons que les activités ludiques sont essentielles à une vie saine et équilibrée. https://fondsantoine.com Un peu plus sur Laura les Merveilles. Depuis 2008, l'organisme Laura les Merveilles aide et accompagne les personnes vivant avec de multiples handicaps sévères associés à des conditions de santé complexes et leurs familles tout au long de leur vie. Grâce à son continuum de 6 points de service normalisants situés dans la région de Québec, Laura les Merveilles permet aux jeunes en situation de polyhandicap de s'épanouir pleinement, guidés par son approche distinctive qui mise sur les capacités. C'était une soirée d'humour organisée par Juste pour rire, amasse 179 150 $ pour les jeunes en situation de polyhandicap. Un texte paru le 26 mars 2025 sur Info de Québec.
Je savais qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment. Un texte de Sébastien Lacroix, paru le 11 mars 2025 dans le Nouvelliste. Le procès de Stéphanie Hamel, qui aurait agressé sexuellement une femme vivant avec une déficience intellectuelle avec son ex-conjoint Patrick Latraverse, à Saint-Justin, se poursuit toute la semaine au palais de justice de Trois-Rivières. Ce dernier a toutefois coupé court aux procédures lundi matin en acceptant de plaider coupable. Il a en effet reconnu ne pas s'être assuré du consentement de la victime tout au long de la relation sexuelle à trois qui s'est produite derrière un cabanon. Il a ainsi écopé d'une peine d'emprisonnement de 15 mois à purger dans la collectivité, assortie d'une probation de 2 ans et d'une série de conditions à respecter, en plus d'être inscrit au Registre national des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. Le juge Simon Ricard a en effet tenu compte du profil de l'individu qui vit avec une déficience intellectuelle légère et un trouble de personnalité limite pour se rendre à la suggestion commune des avocats. L'histoire en question remonte à août 2022. Lorsque la victime prend contact via Messenger avec Stéphanie Hamel, qui était en couple avec Patrick Latraverse depuis plusieurs mois à ce moment-là. Dans une conversation écrite qui a été déposée en preuve, elles conviennent que la mère de Stéphanie Hamel irait chercher la victime dans une résidence qui est adaptée à sa condition pour passer la soirée à Saint-Justin où une activité sexuelle à trois était prévue. Une relation qui ne s'est toutefois pas déroulée comme la victime se l'était imaginée. Quand j'ai embarqué dans la voiture, je savais que ça allait mal virer, a témoigné celle dont il nous est interdit de publier tout renseignement permettant de l'identifier. Elle a en effet indiqué que le co-accusé avec qui elle était assise à l'arrière de la voiture avait entrepris de lui toucher les seins et l'entrejambe durant le transport et qu'elle l'avait repoussé à quelques reprises avant qu'il finisse par arrêter. Une fois à destination, la victime a indiqué que les deux co-accusés avaient des discussions assez intenses. « Je savais qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment », a ajouté celle qui se trouvait alors à plusieurs kilomètres à pied de son domicile. Les gestes à caractère sexuel se seraient ensuite produits en fin de soirée, une fois que la mère de Stéphanie Hamel, où le couple résidait, est allée se coucher. L'accusée l'aurait prise par le bras pour l'attirer à l'arrière du cabanon où la relation s'est produite. Stéphanie Hamel aurait notamment fait des pénétrations vaginales avec ses doigts à la victime. Patrick Latraverse a, quant à lui, admis avoir procédé à une pénétration vaginale non protégée avant de tenter une relation anale. C'est d'ailleurs à ce moment que la victime lui a demandé d'arrêter et s'est retirée pour laisser le couple finir la relation. Éprouvant un important malaise, celle qui vit avec une anxiété chronique a finalement eu l'idée d'appeler l'ambulance pour quitter les lieux et se rendre à l'hôpital où elle a fait une trousse médico-légale. C'est à son retour chez elle, constatant que tout ce qui s'était passé était pour elle inacceptable, qu'elle a décidé de porter plainte aux autorités. Le contre-interrogatoire interrompu. Dans le cadre de son contre-interrogatoire, la victime, qui vit avec une déficience intellectuelle et un trouble de la personnalité limite, a convenu qu'elle n'avait pas manifesté qu'elle ne consentait plus à la relation à trois avant de se rendre derrière le cabanon. Elle a également admis qu'il ne s'était pas échangé de paroles derrière le cabanon jusqu'à ce qu'elle formule son objection à la pénétration anale. Le contre-interrogatoire a toutefois été interrompu en après-midi puisque la couronne souhaitait que certaines déclarations de la victime ne soient pas admissibles en preuve en raison de son état mental. Certains passages de la conversation sur Messenger, déposés en preuve, ont d'ailleurs été caviardés par la poursuite. Selon ce qui a été formulé par la procureure devant le tribunal, ceci faisait référence à un éventuel trouble. Des fiançailles ont également été évoquées durant cet échange. Des débats entre les avocats ont finalement eu lieu à huis clos pendant le reste de la journée de lundi, avant que le juge Jacques Trudel reporte la cause à mardi. Le procès, qui est prévu pour durer 4 jours, doit se poursuivre tout au long de la semaine. C'était « Je savais qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment », un texte de Sébastien Lacroix, paru le 11 mars 2025 dans Le Nouvelliste.
km et 27 pays à vélo à main. Jimmy Pelletier établira un record en faisant le tour du monde. Un texte de Stéphane Cadorette paru le 2 avril 2025 dans le Journal de Montréal. Paraplégique depuis un accident de voiture en 1996, Jimmy Pelletier a toujours carburé au sport. Des Jeux paralympiques de Turin à la traversée du Canada, en passant par l'ascension du Kilimandjaro, il n'y a jamais d'obstacle trop grand. Voilà qu'à 48 ans, il s'apprête à attaquer le plus grand défi qui soit, un tour du monde à vélo à main. L'homme inspirant, originaire de Baie-Comeau, établi à Québec depuis sa vingtaine, profitera de l'occasion pour ramasser des fonds pour Adaptavie, organisme qui vient en aide aux personnes composant avec des limites physiques ou intellectuelles. Quand il parle du tour du monde, qui s'amorcera le 25 juin prochain au parc Terry Fox de Saint-Apollinaire, ce n'est pas qu'une simple image. Jusqu'au 25 juin 2027, Pelletier parcourra 40 000 km, soit la circonférence de la Terre, en compagnie de sa conjointe Manon Bélanger. Le record du monde à vélo à main, qu'il pulvérisera, est de 8 500 km. Tout au long de cette épopée de 2 ans, il passera 730 jours sur la route à travers 27 pays sur 5 continents, à raison de 400 km par semaine. C'est un rêve qui devient une réalité. C'est un gros défi et ça va être le fun de pouvoir faire vivre ça au monde entier pour montrer que dans la vie, on peut toujours transformer l'impossible en possible, a déclaré l'infatigable athlète, décoré cette semaine de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Parcours en 13 étapes. Celui qui est derrière la randonnée Jimmy Pelletier depuis 2015 amorcera donc son périple à la maison, mais il aura tôt fait de se rendre outre-mer. Le 5 juillet, il partira de Londres, au mythique Trafalgar Square, pour parcourir l'Europe de l'Ouest. Il s'attaquera ensuite à l'Australie, à la Thaïlande et au Maroc, avant de revenir en France, où il participera à une version modifiée de la randonnée à son nom, chez nos cousins. Ses aventures le mèneront ensuite en Europe centrale, en Turquie, puis en Amérique du Sud, Argentine et en Amérique centrale. Il entend finalement regagner le confort de son foyer au bout d'un effort par la côte est américaine jusqu'au Nouveau-Brunswick. On vit tous des choses difficiles dans notre vie et à chaque fois, la meilleure solution est de s'adapter au moment présent. C'est une bonne recette et c'est ce que je veux amener au monde. C'est ce que j'ai fait avec mon accident, et aujourd'hui, je suis là et je pars faire le tour du monde avec ma femme, s'est-il réjoui en assurant que cet itinéraire ne lui donnait pas le vertige. Essayer de contrôler l'incontrôlable, ça ne marche pas. On va y aller au jour le jour, a-t-il spécifié. Redonner au suivant. Cette idée folle a commencé à germer dans la tête de Pelletier vers la fin de sa traversée du Canada, en 2019. Pendant la pandémie, il a commencé à ébaucher des plans. Au début, quand je parlais de mon projet, les gens m'écoutaient, mais je ne sentais pas nécessairement qu'ils me croyaient, a-t-il souri. Pourtant, le projet est bel et bien sur le point de devenir réalité, au grand plaisir du directeur général d'AdaptéVie, Mario Légaré. Jimmy, c'est une dynamo. Quand il met un projet en action, il se réalise. C'est impossible de ne pas embarquer dans ses aventures, a-t-il commenté. Pour le moment, ni AdaptéVie ni Jimmy Pelletier n'osent se prononcer sur leurs objectifs quant aux fonds qui seront amassés par l'intermédiaire des particuliers et des entreprises qui contribuent en achetant des kilomètres. À terme, ce tour du monde permettra à AdaptéVie d'intégrer toutes ses activités sur les terrains de Fleur-de-Lys, soit une clinique de soins adaptés, un laboratoire de recherche et un espace psychosocial. C'était 40 000 km et 27 pays à vélo à main. Jimmy Pelletier établira un record en faisant le tour du monde. Un texte de Stéphane Cadorette paru le 2 avril 2025 dans le Journal de Montréal.
Parkinson Québec lance une ambitieuse campagne pour financer la recherche, un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er avril 2025 sur l'Anneau Web. À l'aube du mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson, un moment clé pour mobiliser la population, Parkinson Québec déploie une campagne de financement d'envergure avec un objectif ambitieux, soit d'amasser 5 millions de dollars d'ici 2028, pour propulser la recherche scientifique sur cette maladie neurologique. Et déjà, un jalon significatif a été franchi grâce à l'engagement de partenaires majeurs tels que TFI International Inc., la Caisse de dépôt et placement du Québec, Banque nationale, RBC Fondation, IA Groupe financier, la Banque CIBC, Intact Corporation financière, M. Louis-Marie Beaulieu et Mme Joanne Desjardins, ainsi que M. Patrick Barbeau, la campagne a récolté 2,5 millions de dollars, atteignant 50 % de son objectif total. Chaque dollar recueilli est un investissement direct dans la recherche pour mieux comprendre, prévenir et traiter la maladie de Parkinson à un moment où sa prévalence ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. 23 885 personnes diagnostiquées au Québec. Actuellement, au Québec, 23 885 personnes vivent avec cette maladie neurodégénérative, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040. Face à cette réalité alarmante, Parkinson Québec intensifie ses efforts pour soutenir la recherche et favoriser l'innovation dans le développement de traitements plus efficaces. L'organisme contribue notamment au rayonnement et au financement des centres de recherche québécois, reconnus pour leur excellence en Amérique du Nord. Plus que jamais, la mobilisation collective est essentielle pour faire progresser la recherche sur la maladie de Parkinson et améliorer la qualité de vie des personnes touchées. En approfondissant nos connaissances sur cette maladie complexe, nous pourrons mieux comprendre ses mécanismes, développer de nouveaux traitements et atténuer les impacts de ces symptômes, qu'ils soient moteurs, tremblements, rigidité musculaire, troubles de la parole ou non moteurs, douleurs, anxiété, dépression, qui bouleversent le quotidien des personnes atteintes et de leurs proches. Un cabinet de campagne engagé pour la cause. Afin d'atteindre ses objectifs ambitieux, Parkinson Québec s'appuie sur un cabinet de campagne composé de leaders influents du milieu des affaires et de la société québécoise. La campagne est dirigée par Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction du groupe Desgagné, qui agit à titre de coprésident du cabinet aux côtés de sa conjointe Joanne Desjardins, également coprésidente et impliquée de longue date dans les causes philanthropiques. Ils sont accompagnés de personnalités influentes, dont Pierre Arcan, ancien ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Patrick Barbeau, chef de l'exploitation d'Intact Assurance, Marc Blondeau, ancien président directeur général de la Place des Arts, Marc Godin, directeur général et conseiller financier chez Cheverny Capital, Guy Laframboise, président de gestion Laframboise Inc., Nadine Labbé, vice-présidente, solutions aux particuliers et expérience client Banque nationale, Judith Rochette, associée et avocate chez Lavry, et Caroline Schurman-Grenier, avocate chez Plusgrade. Une porte-parole engagée pour faire entendre la voix des personnes touchées. L'actrice et animatrice Magali Lépine-Blondeau prête également sa voix à cette campagne en tant que porte-parole officielle. Sensible à la cause et touchée de près, elle aspire à mieux faire connaître la réalité des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et à encourager une mobilisation collective essentielle pour le soutien, la recherche et la sensibilisation. Un appel à la générosité pour transformer l'avenir. Parkinson Québec invite la population, les entreprises et les philanthropes à se joindre à cet élan de solidarité pour assurer un avenir meilleur aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Les fonds amassés serviront à soutenir les chercheurs et leurs projets, contribuant ainsi à des avancées majeures dans la recherche et l'innovation thérapeutique. C'était « Parkinson Québec lance une ambitieuse campagne pour financer la recherche », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er avril 2025 sur l'Anneau Web.